Il est 13h sur France Inter. Et Anaïs Feuga nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour à tous. Pas de vaccination obligatoire pour les enfants à l'école. Première prise de parole du ministre de l'Éducation nationale à 2 semaines de la rentrée scolaire. Jean-Michel Blanquer souhaite une rentrée la plus normale possible. Une école ouverte à tous, sans pour autant répondre à toutes les interrogations. Nous voyons cela en début de journal. Alors que des pédiatres chercheurs s'alarment de l'accélération possible de la circulation du virus dans les classes en l'absence de mesures fortes de protection. Marseille, 14e arrondissement la nuit dernière, la mort d'un adolescent de 14 ans tué par balle, 2 autres mineurs blessés. La peur ce matin des habitants de la cité des Marronniers, le maire de Marseille demande des effectifs de police supplémentaires. La France sera au rendez-vous de l'asile pour les Afghans, dit le ministre des Affaires étrangères. Un 3e avion doit atterrir à Paris aujourd'hui. Les abords de l'aéroport de Kaboul sont toujours tenus par les talibans. Témoignage dans ce journal d'un Afghan qui était hier au milieu de la foule. Les incendies dans le Var et le feu qui avance un peu moins vite. 8000 hectares parcourus, nous serons avec les pompiers. Le professeur Raoult, bientôt à la retraite, il atteint la limite d'âge pour les hôpitaux universitaires de Marseille. Et puis les Verts à Poitiers, 5 candidats pour une primaire.
France Inter.
L'été n'est pas encore terminé que déjà le variant Delta s'invite à la rentrée des classes. Le taux d'incidence chez les moins de 19 ans est 5 fois supérieur à celui de la rentrée 2020, alertent les signataires d'une tribune ce matin dans Le Monde, on va y venir. Alors comment envisager la prochaine rentrée scolaire? Inquiétude des parents, des enseignants et beaucoup de questions. Passe sanitaire ou pas? Vaccination ou pas? Masque obligatoire ou non? Sommet par le président de la République, selon le Canard enchaîné, de dissiper le flou, le ministre de l'Éducation nationale a bousculé son agenda. La conférence de presse de rentrée aura bien lieu la semaine prochaine. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Mais ce matin, Jean-Michel Blanquer a pris la parole. Il était en déplacement à Châtenay-Malabry, en région parisienne. Pour lui, la rentrée doit être la plus normale possible.
Et les écoles, les collèges et les lycées seront ouverts selon les mêmes règles que l'année dernière. Port du masque, respect des gestes barrières, campagne de tests. Avec une nouveauté, des centres éphémères de vaccination seront installés, soit dans les établissements, soit à l'extérieur, pour les élèves comme pour les personnels, mais pas d'obligation vaccinale pour aller en classe, a précisé le ministre de l'Éducation nationale.
Nous sommes organisés aussi pour des campagnes de vaccination dès le mois de septembre, pour les élèves qui ne seraient pas déjà vaccinés, sur une modalité d'incitation, puisque je le rappelle, il n'y a évidemment pas de passe sanitaire pour aller à l'école. L'école est ouverte. L'objectif doit être très clair et très compris par tout le monde, très simple. L'école doit être le plus ouverte possible pour tous les enfants de France. C'est ce qui nous a guidés jusqu'à présent et c'est ce qui va nous guider l'année prochaine aussi. Mais évidemment avec la prudence sanitaire qui s'impose, c'est-à-dire une capacité parfois à fermer au cas par cas une classe en fonction de la situation.
À l'école primaire, dès le premier cas de Covid, la classe entière sera fermée et les élèves suivront un enseignement à distance. Dans les collèges et lycées, les élèves de plus de 12 ans vaccinés ne seront pas considérés comme cas contact et pourront donc rester en classe. Seuls les non vaccinés devront rester chez eux et suivre les cours selon des modalités propres à chaque établissement. Le ministre a fixé ce matin les grands principes de la rentrée, mais l'organisation concrète doit encore être définie, que ce soit pour les centres de vaccination ou pour les cours en cas de contamination pour les non vaccinés. Ce sera tout l'enjeu des discussions avec les syndicats la semaine prochaine.
Merci Sonia Princé. Le ministre de l'Éducation nationale, interpellé par ailleurs par un collectif de médecins, scientifiques, enseignants, dans une tribune publiée dans Le Monde ce matin, il lui demande des actions fermes pour protéger la santé des élèves. Depuis quelques semaines au Canada, en Irlande, aux États-Unis ou encore en Allemagne, des classes sont équipées de capteurs de CO2, des purificateurs d'air installés dans les établissements scolaires. Mais rien de tout cela en France, s'étonne Noémie Pérez. Elle est pédiatre à l'hôpital de Valenciennes.
Le variant Delta circule beaucoup plus entre les enfants que d'autres variants ne le faisaient, surtout au début de l'épidémie. Et donc, il va falloir limiter la circulation du virus parmi les enfants en prenant des mesures un peu plus strictes à l'école. Je ne pense pas qu'il faille arrêter l'école, mais je pense que dans la mesure du possible, il faut diminuer l'effectif des classes. Et dans la mesure du possible, il faut arrêter le sport à l'intérieur, vraiment. Si on ne ferme pas de classe, il faut que toutes les classes aient des détecteurs de CO2 et que les fenêtres soient ouvertes très régulièrement. Il ne faudrait pas que l'école soit le lieu de préférence de circulation du virus. C'est ce qui s'est vu dans beaucoup de colonies d'enfants, dans des séjours d'étudiants à l'étranger. Donc il faut arriver à casser ce cycle. Il faut qu'on arrive à empêcher la transmission entre enfants dans les collectivités où beaucoup d'enfants sont ensemble.
Noémie Pérez avec Alice Cachaner pour les équipements détecteurs, les aménagements. Le ministre de l'Éducation nationale renvoie vers les collectivités locales. Jusqu'où la violence ira-t-elle à Marseille cette nuit? Un adolescent de 14 ans tué par balle, un autre blessé, un enfant de 8 ans blessé aussi en pleine rue. Acte ignoble selon les mots du ministre de l'Intérieur. Une moto avec deux personnes armées, d'au moins un fusil d'assaut. Dans la cité des Marronniers de Marseille, cette habitante, Nadine, est sous le choc. Elle a appelé nos confrères de France Bleu Provence.
Ce qu'on a tué hier, c'est un gosse de 14 ans. C'est des gamins, je les vois tous les jours quand je passe. La société a abandonné ses gamins, les parents ont abandonné leurs gamins. On se trouve dans une situation qui est franchement, moi je pars tous les matins travailler, le soir quand je rentre, j'ai toujours la boule au ventre d'être témoin de ce qui est arrivé hier, prendre une balle, ou c'est de ça dont j'ai peur.
Pour Gérald Darmanin, la guerre des territoires semble évidente dans cette attaque. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Comment peut-on expliquer cette violence?
Écoutez, hier soir au Marronnier, dans cette partie du 14e arrondissement de Marseille, sur les hauteurs, la fusillade a bien eu lieu sur un point de deal de vente de drogue à l'entrée d'un parking, selon des sources policières. Et on avait à 22h deux ados de 14 ans et effectivement un enfant de 8 ans. Mais dans le même arrondissement, il faut savoir qu'il y a eu une autre fusillade cette nuit à 2h30. Il n'y a pas une mort, mais ce qu'on appelle une jambisation, un tir dans la cuisse. Cité La Paternelle, une voiture qui arrive, plusieurs individus à bord, l'un qui descend et tire sur un jeune homme de 19 ans, connu pour trafic de drogue. On en est à plus de 10 morts qui seraient liés à des règlements de compte stup en quelques semaines seulement. Les sources que j'ai pu rencontrer ces derniers jours à Marseille évoquent l'arrestation récente d'un très gros trafiquant marseillais à Dubaï, la libération d'un autre très gros bonnet de la drogue en avril dernier, et puis d'autres caïds arrêtés en 2014 lors de l'une des plus grandes enquêtes de police judiciaire jamais menées à Marseille, dans la cité Bassins. On pensait que les têtes de réseau prendraient 20 ans de prison, regretté avant-hier l'un des chefs de l'opération de l'époque. Ils ont pris 10, leur lieutenant un peu moins. Ils sont en train de sortir les uns après les autres.
Merci Emmanuel Leclerc. Et le maire de Marseille demande à l'État de rattraper un retard criant en matière d'effectifs de police. 4 jours qu'ils vivent dans les salles d'hébergement montées à la hâte. Certains ont pu regagner leur tente et leur mobil-home, mais la plupart des 10 000 touristes évacués de la Côte d'Azur doivent toujours laisser la place aux pompiers. 4 jours après le départ du plus important feu de forêt de l'été, une toute petite fenêtre d'optimisme ce matin. La météo est favorable, le feu moins violent. Plus de 8 000 hectares ont été parcourus dans le massif des Maures et dans l'arrière-pays du golfe de Saint-Tropez. Nina Valette, vous êtes avec nous en direct de Gonfaron. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les pompiers ce matin dans leur travail.
Oui, depuis un survol en hélico, les pompiers mettent toute leur force autour des communes du plan de la Tour et Vaudiban, un site où le feu avance toujours et que les nouveaux renforts ont découvert sur une carte papier appuyée sur le capot de leur camion, comme cette équipe venue de l'Est de la France.
Donc c'est là, tu prends D33, ensuite tu prends la D75.
Ok, direction Vidauban.
Oui, direction Vidauban. Je crois que c'est la piste de la Nible. Et ensuite, tu remontes à droite vers le Verger d'Icard.
1200 pompiers en tout réquisitionnés, 1270, ça c'est le nombre de largages d'eau effectués. Et pourtant, le feu continue d'avancer. Au moment où je vous parle, je me retourne, mais je vois une colonne de fumée noire s'élever vers le ciel. Des canadaires qui passent, un dash aussi, au loin. Ça c'est ce qui se passe en ce moment, un désastre qui touche particulièrement le lieutenant Cyril Tranquet.
On ne perd pas de vue le désastre au niveau des biens, des personnes. Ça reste notre priorité première. Voilà. Ceci dit, le désastre écologique est là aussi et ça nous prend au moins autant aux tripes.
Parce que oui, moins devant, les pompiers avaient prévenu, le feu peut quand même reprendre et visiblement c'est le cas.
Nina Valette en direct de Gonfaron avec les moyens techniques d'Hélène Langlois.
France Inter, le journal de 13h. Anaïs Feuga.
Ils disent avoir changé les talibans au pouvoir en Afghanistan, mais déjà, Kaboul efface de ses rues les visages des femmes sur les affiches qui ornent les vitrines des salons de beauté par précaution ou par peur des représailles. Depuis dimanche, les candidats à l'exil cherchent donc à rejoindre coûte que coûte l'aéroport, seule porte de sortie possible du pays. L'aéroport où la situation est confuse, l'OTAN et des responsables talibans affirment qu'une douzaine de personnes y seraient mortes dans des bousculades. Les abords sont contrôlés par les talibans. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Et tout cela complique bien évidemment les opérations d'évacuation qui se poursuivent malgré tout.
Oui, c'est d'autant plus compliqué qu'en plus des Occidentaux, des dizaines de milliers d'Afghans veulent également partir au plus vite dans une cohue indescriptible que nous décrit ce franco-afghan. Hier soir, il a tenté de se rendre à plusieurs reprises à l'aéroport Hamid Karzai avec ses 4 enfants en bas âge. Il a dû rebrousser chemin.
Il y a une vague de population énorme, très dense. Hier soir, par exemple, nous, on était 10h du soir, 22h, on était allé devant l'aéroport, on n'a pas réussi. On était juste en troisième rang, donc les gens, ils sont très serrés, donc il n'y a même pas 1 cm² d'espace libre. Quand on va à l'aéroport, hier soir, il y avait 3 barrages talibans. Après troisième barrage, donc il y avait les Américains. Donc c'est très difficile à entrer, qu'on puisse passer pour montrer les passeports.
Les talibans ont promis il y a 2 jours qu'ils n'empêcheraient personne de partir. Mais dans les faits, ils font tout pour que les Afghans ne puissent pas atteindre l'enceinte de l'aéroport.
Il y a eu gaz lacrymogène pour disperser les gens, la foule. On a failli s'étouffer, surtout la petite dernière. Devant l'aéroport, on voyait que les talibans ils tiraient en l'air pour faire peur aux gens. Donc on voyait la foule de courir à gauche, à droite. Ça se passe comme ça.
Les diplomates, du moins ceux qui sont encore présents sur place, tentent de convaincre les talibans de mettre en place des couloirs sécurisés entre le centre de Kaboul et l'aéroport pour permettre aux Afghans qui le souhaitent de quitter leur pays.
Pendant ce temps-là, la résistance veut s'organiser. Le fils du commandant Massoud réclame des armes aux Américains. Alors que les talibans ont rencontré hier l'ancien président afghan, Hamid Karzai, les tractations pour former un gouvernement sont en cours. Avec quel argent les talibans gouvernent-ils? Ils seraient devenus la guérilla la plus riche, Clémence Pénard.
D'abord, il y a les taxes sur tous les produits qui entrent dans un territoire contrôlé par les talibans. Autre source de financement, les dons privés par le Pakistan ou des pays du Golfe. Enfin, et surtout, le trafic de drogue, comme l'explique Kaweh Kerami, professeur de sciences politiques à l'Université américaine d'Afghanistan.
L'Afghanistan est le plus gros producteur au monde d'opium et une partie des revenus des talibans vient des taxes qu'ils imposent aux cultivateurs d'opium. Selon certaines estimations, ce marché de la drogue leur rapporte environ 400 millions de dollars.
Mais cet argent sera-t-il suffisant pour faire fonctionner tout un pays? Gilles Donron-Soro est chercheur spécialiste de l'Afghanistan.
La situation a radicalement changé avec l'arrivée au pouvoir des talibans. C'est la fin des financements occidentaux. De plus, les États-Unis ont gelé les avoirs de la banque centrale de Kaboul et donc les talibans vont se retrouver avec une banque centrale pratiquement sans réserve.
C'est parce qu'ils vont avoir besoin de l'argent de la communauté internationale que les talibans cherchent à présenter au monde une image plus positive de leur prise de pouvoir.
Et journée sous haute tension à surveiller aujourd'hui en Afghanistan, c'est le jour de l'indépendance. Un troisième vol acheminant des Français et des Afghans doit encore arriver aujourd'hui à Paris. Eux, en quelques jours, ont vu leurs rêves s'envoler. La délégation de sportifs qui devait participer aux Jeux paralympiques de Tokyo ne peut pas quitter l'Afghanistan. L'athlète afghane Zakia Roudadadi, membre de l'équipe de para-taekwondo, demande l'aide de la communauté internationale. Zilan Kokidjit.
Face caméra, le visage grave, Zakia Roudadadi décrit la situation intenable dans laquelle elle se trouve depuis que les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan ce lundi 15 août.
En tant que femme, membre du Comité national paralympique d'Afghanistan, avec toutes les luttes que j'ai traversées, je suis actuellement emprisonnée à l'intérieur de la maison. Je ne peux même pas sortir en toute confiance et en toute sécurité pour aller m'acheter quelque chose, pour m'entraîner, pour vérifier comment vont les autres ou que je ne suis pas exclue de la compétition.
Malgré les risques, la jeune femme ne renonce pas à la compétition olympique et interpelle la communauté internationale.
Je vous demande à tous, car je suis une femme afghane et en tant que représentante des femmes afghanes, je vous demande de m'aider. Mon intention est de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo. S'il vous plaît, tendez-moi la main et aidez-moi. S'il vous plaît, je vous en supplie.
Son appel à l'aide n'a pour l'instant pas suscité de réponse de la part du Comité international paralympique, mais Zakia Roudadadi espère toujours être la première femme afghane. afghane à participer aux Jeux de Tokyo.
Zilan Kokidjit, et puis je vous rappelle que sur franceinter.fr, vous pouvez lire un dossier complet sur l'Afghanistan. France Inter, il est 13h14, le futur fameux institut hospitalo-universitaire marseillais, l'IHU, s'écrira-t-il sans Didier Raoult, le professeur atteint par la limite d'âge, ne sera en tout cas plus professeur et praticien au sein des hôpitaux universitaires marseillais. Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
La PHM vient de le confirmer.
Oui, officiellement, ce départ n'a rien à voir avec les différentes polémiques autour du Covid-19 qu'ont pu susciter les propos et les publications de l'infectiologue, mais bien avec l'âge de Didier Raoult. Il a 69 ans, bientôt 70. Il ne sera plus, à compter du 31 août, praticien hospitalier ni enseignant-chercheur titulaire. Or, pour diriger un grand institut comme l'IHU, à la tête duquel il se trouve depuis 10 ans, il est difficile de ne pas avoir ce statut. Au journal Le Monde, le président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique hôpitaux de Marseille a précisé que Didier Raoult avait souhaité prolonger son mandat de directeur pour 2 journées et demie par semaine, un cumul emploi-retraite en théorie possible, mais qui ne devrait pas lui être accordé. Les membres fondateurs de l'Institut des maladies infectieuses ne veulent pas polémiquer. Ils insistent sur la nécessité d'avoir cette double casquette de médecin et d'enseignant-chercheur pour diriger l'IHU. Le processus de succession aurait même dû démarrer plus tôt s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire. Début septembre, le conseil d'administration de l'Institut proposera de lancer l'appel d'offres pour trouver un successeur d'envergure internationale comme Didier Raoult. Ce directeur ou cette directrice prendrait ses fonctions début 2022.
Et la crise sanitaire ne doit pas pour autant faire oublier le manque récurrent de personnel tous les étés, en particulier dans les EHPAD. Une plainte vient d'être déposée contre la direction d'un établissement à Montélimar. 6 familles dénoncent une rupture de soins et de la maltraitance passive. Certains résidents de cette EHPAD Sainte-Marthe n'auraient pas reçu des soins pendant plusieurs jours, Alice Marot.
Oui, à la fin du mois de juillet, la pénurie de personnel atteint des sommets. L'EHPAD tourne pendant 4 jours sans aucune infirmière. La belle-mère de cette Drômoise s'est retrouvée complètement délaissée.
Nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas eu d'insuline, d'anticoagulant, de morphine, pas de soins et pas de pansement. C'est inadmissible. On paye 2 100 € par mois. Il n'y a aucune humanité. Aucune humanité.
Les familles sont sous le choc. Elles décident d'alerter la justice.
Il y en a qui souffrent quand même. Voilà pourquoi on a décidé de porter plainte auprès du procureur de la République. Nous, ce qu'on veut, c'est du personnel et de l'attention pour nos personnes âgées.
Le personnel aussi est éprouvé. Josée Debord est élue de la CGT. Elle a rencontré une 20aine de membres de l'équipe la semaine dernière et ils sont tous à bout.
Des gens en pleurs. Une souffrance, mais insupportable, hein. C'est quasiment presque toutes les personnes qui ou pleuraient ou avaient les larmes aux yeux en m'expliquant leurs problèmes. Franchement, j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est une situation inédite.
Et une situation causée par de vraies difficultés à embaucher. C'est ce que dit la direction du groupe. Elle assure tout faire pour recruter rapidement et retrouver des équipes complètes.
Les écologistes en mode primaire à Poitiers, ambiance conviviale mais enjeu important à ces journées d'été, départager les 5 candidats qui se présentent à la primaire. Le patron d'Europe Écologie Les Verts vient de faire son discours et vous étiez à Poitiers, Laurence Perron.
Quelques 3000 personnes devant le secrétaire national des Verts qui a dû retarder son discours en raison de l'affluence. Julien Bayou se lance ambitieux.
Et alors vraiment, que ce soit bien clair, on n'y va pas pour préparer je ne sais quoi, pour faire bonne figure, pour préparer l'étape d'après. Nous y allons. Pour gagner. C'est ça la motivation là ?
Mais avant d'attaquer la primaire interne, il écorne Emmanuel Macron et sa gestion de la crise sanitaire.
Et l'idée de rendre la vie des non-vaccinés tellement difficile que cela les pousserait à la vaccination est stupide et dangereux. Parce que pendant que Macron mise tout sur le seul vaccin, eh bien on n'anticipe pas sur les transports, sur les écoles ou sur le télétravail, et même sur les moyens de l'hôpital.
Finalement, Bayou ne s'apesantit pas sur la primaire, il préfère avertir ses partenaires de gauche.
Alors le temps d'alerte est... Et derrière nous, la science est désormais avec nous. Les écologistes ne joueront plus les forces d'appoint pour des gouvernements incompétents et irresponsables. Le temps est venu pour nous de conquérir le pouvoir et de gouverner, car nous sommes porteurs de solutions et prêts et prêtes à prendre nos responsabilités.
Ici, tous les militants le répètent en boucle, il y aura bien un bulletin vert à l'élection présidentielle de 2022.
Voilà, puis un dernier mot pour vous donner cette nouveauté du foot, nouvelle Coupe d'Europe de football, Ligue Europa Conférence où C4, Rennes dispute le barrage aller contre Rosenborg ce soir. Ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens d'entre nous, ceux qui ont connu avant 2008 la Coupe Intertoto. Le temps.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Jean-Pierre Hameau, un temps quasi automnal dans le Nord.
On peut le dire, Anaïs, hein, le temps restera bien maussade cet après-midi entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France et le Grand Est, avec une couverture nuageuse bien compacte, lâchant quelques bruines passagères. En revanche, et comme hier, hein, le soleil va briller généreusement du Languedoc-Roussillon à la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région PACA à la Corse. Le Mistral va s'essouffler au fil des heures. Et puis dans les autres régions, les nuages laisseront passer de timides éclaircies. À noter des orages en fin de journée sur le relief des Pyrénées ariégeoises et de la montagne corse. Côté température, pas de miracle, les valeurs resteront généralement en dessous des moyennes de saison d'environ 3 degrés, comprises entre 18 et 26 degrés. Et puis ça sera plus chaud près de la Méditerranée, avec 29 à Fréjus, 30 à Calvi, 31 à Istres comme à Figari.
Merci Jean-Pierre Hameau, Météo France.